This evening, we are privileged to hear Professor Jean Duhaime of the Faculty of Theology at the Université de Montréal. His specific training has been in the areas of religious studies, sociology, and teaching. He holds several degrees from l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Chicoutimi, and l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Le champ de spécialisation du professeur Duhaime inclut les psaumes, les prophètes et les écrits sapientiaux. Nonobstant des enquêtes dans ces aspects de l'histoire biblique, Jean Duhaime a aussi su transférer ses connaissances des sectes à l'étude de contextes très modernes, tels les forces canadiennes. Professor Duhaime has taught religious and biblical studies at both the college and university levels. His list of publications is quite extensive, with many contributions dealing with aspects of the Dead Sea Scrolls and the people who wrote and left some of these documents. Ce soir, le professeur Duhaime nous aidera à mieux apprécier la signification des trois fragments de manuscrits qui sont exposés à l'autre bout du corridor, tout près d'ici. He will bring these words, written down more than 2,000 years ago, to life, and show us why their discovery and study has enriched our values and our knowledge of ourselves. Donc, sans plus tarder, je vous présente le professeur Jean Duhaime de l'Université de Montréal, qui nous présentera sa conférence intitulée « La signification des manuscrits ». Professeur Duhaime.
Merci beaucoup. Bien, alors, comme on vous l'a dit, je vais parler de la signification des manuscrits de la Mer Morte. J'ai mis en, comme page de présentation la première page de la règle de la communauté. Alors, certains d'entre vous qui l'ont vu à l'autre bout du corridor, comme on a vu, l'auront peut-être reconnu. Nous allons regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, je vous propose une trentaine de diapositives que je vais commenter brièvement. Et à l'aide de cela, nous allons d'une part examiner les trois manuscrits que nous avons ici, qui sont trois des premiers textes découverts en 1947, donc parmi les tout premiers documents découverts à Qumran. Il y a un exemplaire du livre biblique d'Isaïe. Alors, le sigle que vous voyez entre parenthèses porte un numéro, le chiffre 1 à 11. En fait, il y a 11 grottes dans lesquelles on a trouvé des manuscrits. La lettre Q indique la provenance de Qumran et l'abréviation ensuite IS pour Isaïe et la lettre B en exposant nous indique que c'est le deuxième manuscrit d'Isaïe découvert dans cette grotte. Alors ce système-là est valable pour à peu près tous les documents de Qumran. Nous avons aussi la règle de la communauté, alors trouvée dans la grotte 1. Et la lettre S vient du mot hébreu « sérek », qu'on a traduit en français par « règle ». Donc, le S a gardé le terme hébraïque. Et le rouleau de la guerre, trouvé dans la grotte 1 aussi, « milchama » en hébreu. Donc, un QM, c'est le rouleau de la guerre. Avant de parler de ces trois manuscrits, je fais avec vous une rapide visite du site archéologique de Qumran. D'abord, ses ruines, ensuite les grottes. On parle un peu de l'ensemble des manuscrits de la communauté. Et puis, pour chacun des documents, je résume brièvement l'histoire de sa découverte, ses caractéristiques principales. Je vous donne un aperçu de son contenu avec quelques exemples précis. Je pense que c'est important de voir les textes et puis de pouvoir en lire quelques extraits. Et ensuite, on terminera en donnant un peu la signification d'abord du manuscrit lui-même et finalement le paysage d'ensemble. Alors, le site archéologique de Qumran, vous l'avez indiqué par la flèche sur la diapositive, il est situé donc au nord-ouest de la Mer Morte, à peu près à 15 km au sud de Jéricho, à environ 20 km à l'est de Jérusalem, ou sud-est si vous voulez, avec toutefois une dénivellation considérable. Jérusalem est à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, et la Mer Morte est à 400 mètres sous le niveau de la mer, donc 1200 mètres de dénivellation. Et le site de Qumran se trouve sur un petit plateau, une centaine de mètres au-dessus de la Mer Morte. Donc, on est quand même encore à 1100 mètres sous le niveau de Jérusalem, si vous voulez. Et finalement, un autre point de repère qui est assez connu, c'est l'oasis d'En Gedi, qui est à peu près au milieu de la Mer Morte. Nous sommes à peu près une trentaine de kilomètres au nord. Vous verrez sur une diapositive suivante le site de Masada, qui est plus vers le sud ici de la mer Morte. Alors, c'est la situation géographique, donc assez isolée. On est au bord de la mer Morte, dans un endroit relativement désertique, où l'approvisionnement en eau est dû à de l'eau de pluie qu'on recueille au moment où il y en a, pas très souvent, à peu près une semaine par année, et une source qui se trouve un petit peu plus au sud du site. Sur cette diapositive, vous voyez assez bien la mer Morte, les monts de Jordanie de l'autre côté, et le bord de la mer, en fait, la mer Morte, à l'époque de Qumran, s'avançait probablement, son niveau était un peu plus élevé, la mer s'avançait probablement assez près, là où passe la route à peu près ici. Et le plateau où se trouve Qumran est donc un fond marin, ce qu'on appelle parfois une terrasse marneuse, à peu près une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Les ruines elles-mêmes, dont nous allons voir un gros plan tout à l'heure, sont ici. On a trouvé des manuscrits dans la falaise rocheuse, ici, et aussi dans une autre pointe de la terrasse marneuse, à proximité du site lui-même. Les ruines, si on les regarde de plus près maintenant, alors j'emprunte ce plan à un numéro, un excellent numéro, il y en a paru plusieurs dans la revue Le Monde de la Bible, que je vous recommande si vous voulez un peu plus d'informations, ils sont faciles à retrouver. Alors, les ruines elles-mêmes ont été fouillées de 1951 à 1956. Alors, ça nous allume tout de suite un petit signal. Là. Les premiers manuscrits ont été découverts en 1947. La fouille s'est organisée seulement quelques années plus tard. Alors, les premiers manuscrits n'ont pas été trouvés dans un contexte de fouille, mais par hasard et ensuite par la curiosité des Bédouins. C'est le père Roland Devaux, un dominicain de l'École biblique de Jérusalem, qui a organisé et qui était responsable des fouilles à Jérusalem, à Qumran plutôt, avec le directeur du département des Antiquités de Jordanie, le professeur Harding. Et la raison pour laquelle c'est l'École biblique et le département des Antiquités de Jordanie qui a été responsable de la fouille, c'est qu'à cette époque, nous sommes tout de suite après la guerre d'indépendance d'Israël, la région est sous contrôle jordanien. Alors ça aussi, ça explique un des problèmes qu'il y a eu avec les manuscrits de la mer Morte, c'est tout ce conflit politique qui a fait que, sauf exception, et ça va être le cas pour quelques-uns des manuscrits, sauf exception, les chercheurs juifs n'ont pas été intégrés ni à la fouille archéologique, ni à la publication des manuscrits pendant une assez longue période. Tout simplement parce que la région où les manuscrits ont été découverts était du côté jordanien. Les manuscrits ont été préservés du côté jordanien jusqu'en 67, jusqu'au moment où les Israéliens ont pris le contrôle de la partie est de Jérusalem où se trouvait le musée où étaient préservés ces manuscrits. Alors, je continue, parce que je ne vais pas faire trop de digressions, autrement on va être encore là demain matin. Les fouilles, donc, de 51 à 56 par le père Devaux et son équipe, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Plusieurs niveaux d'occupation. Un premier niveau qui ne nous intéresse pas beaucoup pour les manuscrits de Qumran, mais qui est important pour le site, c'est un niveau israélite. Un poste militaire du milieu du 8e siècle avant notre ère, dont on a trouvé des traces autour de cette citerne ronde. Ici, il y a des tessons de poterie dans le plastrage de la citerne qui date du 8e siècle avant notre ère. Ça, c'est relativement facile à dater quand on a des tessons de céramique en Israël ou Palestine, si vous voulez. Ensuite, probablement, les bases de cette tour carrée ici et une partie des murs de ce bâtiment. Vous voyez, un plan de bâtiment carré assez net et qui va être la partie la plus constante, si on peut dire, du bâtiment de Qumran. Ensuite, l'établissement est occupé donc par un groupe, par une communauté, au milieu ou vers la fin du 2e siècle avant notre ère, vers les années entre 135 et 100 avant notre ère, la première occupation par ce nouveau groupe, jusque probablement vers 31 avant notre ère, j'explique ça dans un moment, et peut-être un peu plus tard. Alors, il y a un groupe qui s'est installé sur l'emplacement de ce fortin israélite, donc ils ont relevé un peu les ruines, ils ont utilisé le bâtiment carré ici, mais ils ont aussi agrandi pour répondre à leurs besoins, et ils ont agrandi à deux reprises, donc on va distinguer une période 1A et une période 1B. La période 1B est celle que nous avons sur le plan. Alors, ce qu'on voit assez bien sur ce plan, c'est d'abord tout un réseau d'un système d'aqueduc, si vous voulez. Il y a ici un bassin de décantation qui peut-être servait à filtrer un peu les eaux de surface. Ensuite, une canalisation qui amène à la citerne ronde du 8e siècle, dont le pourtour a été relevé. C'est associé à deux autres citernes ici, un canal qui poursuit vers d'autres citernes ici encore. Vous en avez encore là et encore là. Et par ailleurs, il y a un autre canal d'amener d'eau qui est celui-ci, qui va venir se joindre. Et donc, à partir d'ici, les deux sont fusionnés. Un réseau d'eau donc assez important. Ces eaux viennent du wadi, du torrent de Qumran. On a vu un peu sur la photo tout à l'heure comment c'est escarpé. Lorsqu'il y a la saison des pluies, qui est très courte dans cette région-là, comme je dis, c'est à peu près une semaine par année, lorsqu'il y a la saison des pluies, les eaux de ruissellement s'engouffrent littéralement dans des torrents. Et les gens de Qumran avaient établi un barrage pour capter les eaux qui coulaient dans ce torrent et donc les canaliser et les amener dans leur réseau de citernes qui étaient probablement couvertes et qui permettaient de satisfaire leurs besoins en eau pour une année. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est quelques grandes pièces. Par exemple, cette pièce ici qu'on appelle le réfectoire, c'est une salle à manger, probablement oblongue, comme ceci. Et dans la pièce adjacente, ici, on a trouvé un service de vaisselle dont nous avons quelques morceaux ici au musée, des bols, des assiettes, des gobelets. Il y a un millier de bols à peu près. Alors, on estime sur cette base-là et avec les dimensions de la pièce que le groupe qui occupait ce site-là pouvait atteindre au maximum 200 personnes, peut-être un peu moins. Certains archéologues préfèrent parler plutôt de 75 ou 100 personnes, d'autres un maximum de 200. Ensuite, il y a des bâtiments, disons, il y a un quartier d'artisans, si vous voulez, ici. Il y a un atelier de potier dans ce secteur-ci, avec tout son équipement, un tour et deux fours pour faire de la poterie. Et il y a, à des endroits stratégiques, ici, probablement ces deux bassins ici, mais on n'en est pas absolument certain. Et puis, dans le secteur d'atelier du potier, ici également, il y a des bains rituels, des bains qui servaient à des rites de purification exigés par la loi. Alors, il y en a au moins deux assez nettement identifiés et possiblement jusqu'à une dizaine selon les interprétations qu'on peut en donner. Une dernière pièce que je voudrais vous signaler qui est importante, c'est celle-ci. C'est une pièce dont on a trouvé les vestiges. En fait, ce n'est pas la pièce au rez-de-chaussée qui est intéressante, c'est celle qu'il y avait au-dessus. Dans les décombres de cette pièce, on a trouvé le plafond et par conséquent le plancher de l'étage du dessus. Et sur le plancher de l'étage du dessus, on a trouvé deux grandes tables qui font à peu près 2 mètres de long et des banquettes à peu près aussi longues, mais beaucoup plus basses, qui vont avec ces tables. On a aussi trouvé dans cette pièce 3 encriers. Avec, entre autres, dans l'un d'eux, de l'encre végétale noire qui correspond en tout point à l'encre qu'on trouve sur les manuscrits. Alors, c'est un des éléments qui va faire le lien entre le site archéologique et les manuscrits, puisqu'on n'a trouvé aucun manuscrit dans les ruines elles-mêmes. Tous les manuscrits ont été trouvés dans les grottes. Alors, pour faire le lien entre les deux, qui est parfois contesté, on recourt à des indices comme ceux-là. Alors, cette pièce a été appelée, puisque le père Devaux est un dominicain, la tradition monastique connaît bien ce genre de travail de copie de manuscrits qui s'effectue dans une salle qu'on appelle le scriptorium, l'écritoire, si vous voulez. Alors, on lui a donné ce nom. Bien, pour les grottes maintenant, on a trouvé à Qumran 11 grottes. La première a été trouvée par les Bédouins, mais le père Devaux et son équipe, entre 1952 et 1956, ont fait 300 sondages dans la paroi rocheuse et dans la terrasse marneuse près du site de Qumran. Vous avez le site de Qumran ici, et vous avez les lignes de dénivellation indiquées en mètres ici, n'est-ce pas? Donc, la falaise était très, très escarpée ici. On a trouvé, parmi ces 300 sondages, 40 grottes habitées, mais certaines étaient habitées au deuxième millénaire avant notre ère, donc assez loin de notre période. Celles qui concernent la période 1 et 2 de Qumran, je reviens peut-être sur la période 2 dans un moment, la période 1 et 2 de Qumran, donc 26 grottes qui correspondent à ces périodes, dont 11 ont livré des manuscrits et ce sont celles qui sont numérotées sur le plan ici. Alors, il y a des grottes dans la falaise, les grottes 1, 2, 3, 6 et 11. Alors, 1, 2 ici, La grotte 3, la grotte 11, puis la grotte 6 se trouvent ici. Ensuite, les grottes 4 et 5 et les grottes 7 à 10 sont, elles, dans la terrasse, donc dans le fond marin, tout près du site de Qumran lui-même. Je me rends compte que je n'ai pas parlé beaucoup des périodes 2 et 3 à Qumran. Alors, je vous explique ça brièvement sans revenir sur la diapositive. Le groupe qui s'est installé à Qumran aux périodes 1A et 1B, ce groupe-là a connu une catastrophe. En 31 avant notre ère, il y a un tremblement de terre qui a secoué toute la région et qui est raconté, entre autres, par Flavius Joseph, l'historien ancien. Et vraisemblablement, le site a été abîmé. Il y a une fracture d'à peu près 50 cm qu'on peut suivre, qui traverse tout le site. Alors, le même groupe, disons, ce groupe-là aurait abandonné les lieux, peut-être à ce moment-là, peut-être un peu plus tard, mais il a réoccupé les lieux à partir de l'an 4 à peu près avant notre ère, en utilisant les parties du site qui n'avaient pas été abîmées par le tremblement de terre. Par exemple, une des grandes citernes avait été traversée par cette fracture, elle était inutilisable. On l'a tout simplement remblayée, on l'a remplie et on a utilisé le sol comme une cour dans laquelle on avait différentes activités. On a simplifié la canalisation d'eau, évidemment, puisque cette citerne était inutilisable, on a détourné la canalisation, etc. Bon. Ce site est resté occupé par le même groupe jusqu'en 68 de notre ère, vraisemblablement saisi, pris par les Romains. Il y a une légion romaine qui monte vers Jérusalem venant de Jéricho. Flavius Joseph, encore une fois, l'historien qui raconte ces choses, nous décrit de façon très précise et pratiquement au jour le jour l'itinéraire de cette légion. Et vraisemblablement, en juin 68, l'armée romaine a pris le site de Qumran et ses habitants sont ou morts ou disparus. Et vraisemblablement, c'est à cette occasion que les derniers manuscrits ont été cachés dans les grottes pour échapper aux Romains. Les Romains vont laisser sur place un petit camp militaire, ce qu'on appelle la période 3 de Qumran, des années 68 à 73 de notre ère. C'est attesté, entre autres, par des monnaies romaines et des divers objets qu'on a trouvés sur le site lui-même. Maintenant, en ce qui concerne les grottes et les fouilles, je veux simplement vous signaler qu'après les fouilles principales faites par Deveau et son équipe, il y a eu d'autres fouilles qui ont, de façon générale, confirmé le portrait tracé, l'interprétation tracée par Deveau et son équipe. Un point qui était discuté, c'était l'idée de savoir s'il y avait vraiment un lien entre les ruines et les grottes. Et des archéologues israéliens, Magen Broshi et Enan Eshel, en 95-96, on réussit à repérer des sentiers anciens qui partent des ruines pour se rendre aux grottes. Ils ont trouvé des objets, des clous de sandales et des lanières de cuir et des choses comme celles-là, donc qui montrent bien que les grottes n'étaient pas quelque chose qui est arrivé après le site, mais qu'elles étaient en usage simultanément. Un mot sur les manuscrits. Là, on pourrait en parler longuement, mais je veux vous les montrer. Alors, il y a dans le lot de manuscrits trouvés à Qumran des fragments, des milliers de fragments. Il y a des fragments d'environ 900 manuscrits. Vous avez ici sur la photo la grotte 1. L'entrée originelle était probablement celle-ci. La première découverte s'est effectuée par là, vraisemblablement par deux bédouins dont l'un a pénétré dans la grotte et après avoir entendu un bruit de cruche cassée alors qu'il lançait des cailloux, peut-être pour faire sortir une chèvre, c'est la version un peu romantique des choses. L'autre version, c'est qu'il s'amusait tout simplement à vérifier s'il avait l'œil. Et puis, il y a une version un peu plus mafieuse qui dit qu'il cherchait une cache pour des objets de contrebande. Alors, vous choisissez. Et toujours est-il que le jeune bédouin, qu'on verra la photo tout à l'heure, Mohamed Eddib, découvre cette grotte, y trouve une dizaine de cruches, et dans trois de ces cruches, d'anciens manuscrits qu'il ramène à dans la région de Bethléem. Et finalement, ces manuscrits se retrouvent sur le marché des antiquités et la découverte de Qumran est lancée, si vous voulez. Alors, parmi ces 900 manuscrits qu'on a fini par extirper des grottes, il y en a environ 225 qui sont des manuscrits bibliques, des manuscrits de toute la Bible, y compris deux traductions en araméen, ce qu'on appelle des targoum, des tefilines, qui sont ces petits objets que les Juifs portent autour du front et du poignet, et puis des mezouzot, qui sont ces petits objets qu'on met sur le montant des portes avec quelques passages du texte biblique. Alors, on a des fragments de toute la Bible hébraïque, s'entend, sauf le livre d'Esther. On ne sait pas exactement pourquoi on n'a pas le livre d'Esther. Il y a deux explications possibles. Une qui est très simple, c'est de dire que les rats l'ont mangé. C'est possible. Il n'y a pas de raison pourquoi ils n'auraient pas dévoré ce manuscrit-là puisqu'ils en ont mangé d'autres. Mais l'autre raison, c'est que le livre d'Esther sert à justifier l'existence de la fête de Pourim. Et cette fête-là, vraisemblablement, ne faisait pas partie du calendrier des gens de Qumran. Alors, il est possible que pour eux, ce livre-là n'ait pas eu vraiment d'intérêt et qu'il n'ait pas fait partie de leur bibliothèque. On a aussi des fragments de ce qu'on appelle les deutéros canoniques, c'est-à-dire des livres qui sont préservés dans la Bible chrétienne, dans sa portion qu'on appelle d'Ancien Testament, mais qui n'ont pas été préservés dans la Bible hébraïque, la Bible juive, ni dans la tradition protestante. Alors, il s'agit de livres qui ont été parfois composés en hébreu, mais généralement transmis en grec, qui circulaient dans la communauté juive probablement davantage en diaspora qu'en Palestine, à Alexandrie par exemple, et qui ont servi aux premiers chrétiens lorsqu'ils ont répandu leur évangile, leur bonne nouvelle, au milieu de populations juives de diaspora, parlant grec et utilisant ces écritures. On peut comprendre pourquoi les chrétiens les ont préservés et la tradition protestante les a écartés au 16e siècle en revenant au canon hébraïque de la Bible, puisqu'on centrait le retour religieux sur la parole de Dieu, sur les écritures, et on voulait être certain d'avoir les bonnes. Alors, on a écarté ces écrits qui est un peu douteux. Bien, alors, il y a des fragments de ces deux terreaux canoniques, par exemple, l'abréviation Sir est pour Ben Sira, le Siracide ou l'Ecclésiastique. On sait que cet ouvrage-là a été composé en hébreu. On en a des fragments à Qumran, mais il a été préservé en entier uniquement en grec, en latin, en syriaque et quelques autres langues. Bon. Bien, ensuite, il y a des fragments de ce qu'on appelle des pseudépigraphes. Les pseudépigraphes sont des écrits qui ont été mis sous le patronage de grandes figures du passé, et qui sont des commentaires ou des parallèles, des textes en marge de la Bible, si vous voulez. Au chapitre 5 de la Genèse, il est question du patriarche Hénoc, qui est un juste et qui a marché avec droiture devant Dieu, et dont on dit qu'il a été emporté au ciel. Puis on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, la tradition juive s'est demandé pourquoi Dieu a enlevé Hénoc au ciel, qu'est-ce qu'il a fait là, qu'est-ce qu'il fait là, et est-ce qu'Hénoc a quelque chose à nous dire aujourd'hui? Et dans la tradition juive, à partir du 3e siècle avant notre ère à peu près, ont commencé à circuler des livres d'Hénoc dans lesquels il raconte ce qu'il voit au ciel. Alors, il a eu un tour du cosmos gratis de la part de Dieu. Il n'a pas eu besoin ni de spirit ni d'opportunity pour le faire. Et Dieu lui montre, au fond, sa création vue du point de vue de Dieu, la vision panoramique vue du ciel. Et Dieu lui montre aussi le passé et l'avenir. Alors, il sait où seront châtiés les impies, où seront récompensés les justes, et il raconte ça à ses enfants, donc aux terriens, pour les exhorter à mener une vie vertueuse. Alors, c'est ce genre d'écrits qui a circulé, des écrits édifiants, qui ont circulé dans le judaïsme et qui n'ont pas été intégrés dans aucune Bible, mais qui étaient connus par des traductions en éthiopien, par exemple, ou en grec. Alors, on a retrouvé des fragments de ces textes-là en hébreu et en araméen à Qumran, donc dans leur langue d'origine. Et finalement, le lot le plus passionnant, je dirais, c'est un lot d'environ 600 manuscrits non bibliques qui n'étaient pas connus avant les découvertes de Qumran. Alors, je vais simplement vous dire les principaux genres. Il y a des règles, comme celle de la communauté qu'on va voir tout à l'heure, et des textes légaux. Il y a des textes eschatologiques. Le rouleau de la guerre est un rouleau qui parle de la guerre de la fin des temps. On dit en grec l'eschaton. Alors, c'est un rouleau qui décrit comment va se passer l'affrontement ultime entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres, ou entre les justes et les impies, si vous voulez. Il y a de la littérature exégétique, c'est-à-dire de la littérature qui cherche à interpréter les textes bibliques pour dégager leur signification. On appelle ça des pecharim, pechers au singulier. On a par exemple un commentaire du livre d'Habacuc dans lequel ce que le prophète Habacuc annonce est présenté comme se réalisant dans la vie de la communauté. Il y a une parole du prophète, et puis on dit, bien, tel élément de la parole, ça correspond à tel événement dans la vie de notre communauté. Et si on est capable, un peu comme on le fait dans certains milieux, si on est capable de démontrer que les événements annoncés par le prophète, un certain nombre se sont réalisés, qu'on peut les identifier, on est capable d'appliquer la même grille de lecture pour les événements à venir. et prédire de cette façon-là, en décodant le prophète, l'avenir immédiat, hein, qui va être évidemment le triomphe de votre groupe et l'anéantissement de vos ennemis. Bien. Ensuite, on a une littérature parabiblique, donc des textes qui commentent la Bible. Par exemple, certains textes qui paraphrasent des épisodes de la Genèse, qui posaient question puis qu'on a enrichi un peu. Certains textes poétiques, un rouleau d'hymnes, par exemple, on a toutes les prières, enfin, un lot de prières de cette communauté. Et comme vous savez, les communautés s'expriment beaucoup dans leurs prières, leur identité, leurs convictions, etc. Des textes liturgiques, il y a des chants pour l'Holocauste du sabbat. Le groupe de Qumran s'était séparé du Temple de Jérusalem. Et ils ont développé leur propre liturgie en parallèle. Nous avons cela. Des textes astronomiques qui essaient de comprendre un peu le calendrier, d'abord à partir des astres, puis ensuite la configuration et les tempéraments, les qualités, les défauts des personnes, selon probablement le moment de leur conception. On a un document qui raconte, qui parle, qui décrit deux personnes, une qui est une personne tout à fait élégante et sans doute brillante, qui a en elle 7 parts de lumière et 2 parts de ténèbres. Le total fait 9, ça correspondrait probablement à 9 mois de gestation. Puis il y en a une autre qui est un personnage affreux, qui a exactement la proportion contraire. Alors, c'est ce genre de texte un peu astrologique qui est un petit peu étrange. Il n'y en a pas énormément à Qumran, il y en a quelques-uns. Et finalement, le rouleau, ce qu'on appelle le rouleau de cuivre, c'est un rouleau qui donne une liste d'une 60aine d'endroits où seraient cachés des trésors, qu'on n'a toujours pas trouvés, qui était peut-être la portion que les gens voulaient donner au temple, comme dîme, si vous voulez, ou comme offrande au sanctuaire, mais qui le retenait en attendant que le personnel du temple est changé, que des prêtres légitimes à leurs yeux s'y trouvent et que le culte soit restauré d'une façon qu'ils estimaient adéquate. Alors, c'est possible, c'est l'interprétation la plus plausible qu'on peut donner de cela. Alors, la communauté de Qumran, qu'est-ce qu'on a appris avec ces manuscrits? D'abord, c'est clair qu'il y a un lien entre les manuscrits et les bâtiments. J'ai parlé des encriers du scriptorium tout à l'heure. Il faut savoir aussi que la poterie dans laquelle ces manuscrits ont été trouvés a été faite dans le tour du potier et cuite dans les fours de Qumran également. C'est la même poterie que celle qu'on trouve dans les ruines. Les textes font référence à un groupe religieux. Et le groupe pourrait très bien avoir vécu dans ces ruines. Ça paraît des évidences, mais ça a été contesté. Et d'après les textes, on a affaire à un groupe de prêtres et de laïcs en rupture avec le judaïsme de Jérusalem. Des gens qui estiment que ce qui se passe à Jérusalem n'est pas du vrai judaïsme et qu'eux vont réformer le judaïsme de façon intégrale. Ils ont une interprétation particulière, très rigoureuse de la loi de Moïse, des croyances dualistes. Dualisme, c'est l'affrontement des forces de lumière, de ténèbres, des justes et des impies, tout ce qui construit la vision du monde en deux parties, noir et blanc, si vous voulez. Des attentes messianiques, ils attendent un sauveur, ou plutôt 2 sauveurs, un prêtre et un roi, qui vont restaurer les institutions d'autrefois, et ils attendent aussi la guerre de la fin des temps, donc des croyances eschatologiques. On les identifie généralement aux Esséniens. Qui sont les Esséniens? C'est un parti ou un groupe religieux qui est présenté par Flavius Joseph lorsqu'il décrit les grands courants spirituels religieux du judaïsme de son temps et même la période qui précède un peu. La correspondance entre la description de Flavius Joseph et les manuscrits de Qumran fait que la plupart des chercheurs aujourd'hui estiment que ce sont des Esséniens qu'on avait à Qumran. D'autres chercheurs, dont Laurence Schiffman, dont je vous dirai peut-être un mot vers la fin, pense qu'il s'agit peut-être, à cause de son caractère sacerdotal très accentué, d'un groupe, d'une forme ancienne de ce qui va devenir le groupe des Sadducéens. Les Sadducéens étaient les prêtres au Temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Alors, une forme archaïque, disons, les proto-Sadducéens, qui auraient ensuite développé des croyances que d'autres Sadducéens, après eux, ne partageront pas. Donc, un groupe se serait séparé, qui aurait partagé ses propres croyances. J'en viens maintenant, ça va être la deuxième partie, aux 3 manuscrits que nous avons ici au musée. Alors, le livre d'Isaïe, il a été découvert en 47, par les Bédouins. Alors, vous avez les 2 Bédouins qui sont associés à cette découverte. Le moustachu, ici, sur la droite, est Mohamed Eddib, ou Mohamed le Loup. C'est lui qui a raconté la légende dont je vous ai parlé tout à l'heure, la petite histoire de la découverte. La photo du milieu, c'est le manuscrit d'Isaïe avant d'être déroulé. Alors, c'est un peu C'est un gros défi, disons ça comme ça. Et la photo à droite, c'est celle du professeur Soukenik, qui est un professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui, au risque de sa vie, a pris un autobus arabe en se déguisant en bédouin et est allé acheter ce manuscrit avec quelques autres à Bethléem. Alors, il a déroulé ce texte d'Isaïe. On le plaçait à l'époque, on les plaçait entre deux plaques de verre, comme ceci, et vous le voyez en train de travailler sur ce rouleau d'Isaïe. On a trouvé, au moment des fouilles de Qumran, on a trouvé dans la grotte 1 de Qumran quelques fragments qui viennent compléter ce rouleau. Alors, c'est la preuve que le rouleau provient bel et bien de cette grotte. Il y a quelques fragments qui s'en sont détachés quand les Bédouins ont retiré les rouleaux de la grotte et on a la certitude qu'ils venaient bel et bien de cet endroit. Il y a 4 feuilles de manuscrits, vous allez les voir dans un moment, qui sont, quand je parle de 4 feuilles, ce sont 4 peaux de chèvre ou de mouton, probablement plus souvent du mouton dans ces cas-ci, qui ont été cousues bout à bout, il y en avait plus, sur lesquelles on pouvait écrire. C'était le parchemin de l'époque, si vous voulez. Et on date l'écriture d'après de différentes périodes. Cette écriture est d'époque hérodienne, donc l'époque du long règne du roi Hérode, deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère. Alors, vous avez les 4 pages ici. La page 1, c'est celle qui est exposée ici au musée. La page 2, nous l'avions à Montréal, à l'exposition cet été. Si vous roulez sur lui-même ce rouleau-là, vous allez voir que la destruction du manuscrit est assez évidente. On voit très bien, repensez à l'image que je vous ai montrée du manuscrit avant son déroulement, on voit bien comment il a été abîmé. Hein. La page 3, la page 4. Hein. Alors, on a dans ce texte-là, on voit assez bien comment c'est présenté. Ici, ce sont des photos faites à l'infrarouge. On voit assez bien les marges et les colonnes. Alors, vous avez des marges dans le haut, les colonnes séparatrices ici. Et puis, on constate pour l'ensemble de ce texte qu'il y a très peu de variantes, c'est-à-dire de différences, entre le texte d'Isaïe que nous avons à Qumran et le texte classique connu dans le judaïsme d'aujourd'hui, qui est une copie, enfin, on reproduit un manuscrit qui a été copié vers l'an 1000 de notre ère. Et là, on a un manuscrit copié dans les années 50 avant notre ère. Alors, sur 1000 ans de distance, des textes presque identiques. Ça, c'est ce qu'on peut voir au musée. Alors, il y a des gens qui, quand ils circulent dans la salle, trouvent que d'abord le manuscrit n'est pas toujours éclairé. Et puis, il est assez sombre, la peau est noircie avec le temps. La photo à l'infrarouge est un net avantage de ce point de vue-là. Vous voyez à peu près ce que nous avons. Donc, la deuxième partie du livre d'Isaïe, à partir du chapitre 40, le livre d'Isaïe a 66 chapitres. C'est un des plus longs de toute la Bible. Cette partie du livre d'Isaïe aurait été composée au milieu du 6e siècle avant notre ère, vers la fin de la période qu'on appelle la période de l'exil, où l'élite de la population de Judée à l'époque a été déportée à Babylone, et vers la fin de cette période de l'exil qui va se terminer avec Cyrus en 538, un prophète annonce au nom de Dieu que la servitude de son peuple est terminée, que Jérusalem sera reconstruite et que sa population pourra revenir chez elle. Et avec cette annonce de salut, il y a une figure de serviteur dans laquelle les chrétiens ont reconnu Jésus, mais dans laquelle la tradition juive a reconnu différents groupes, dont tout simplement la communauté juive elle-même, ce qu'on appelle Jacob. Alors ici, je vous montre 2 extraits de ce manuscrit. Alors, c'est un agrandissement de la première partie du texte. Vous voyez que c'est très, très lisible quand on l'agrandit comme ça et qu'on le voit à l'infrarouge. La flèche pointe le début du texte. Je vous ai reproduit, pour ceux qui lisent l'hébreu, le texte classique, le texte massorétique, sans la vocalisation. Les rabbins ont développé un système pour noter les voyelles du texte hébreu qui n'était pas noté dans la forme ancienne du texte qu'on a à Qumran. Alors, vous avez un texte à peu près identique et on peut très bien lire ici « Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, toi que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami, toi que j'ai affermi depuis les extrémités de la terre, toi que depuis ses limites j'ai appelé, toi à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, le personnage du serviteur. Je t'ai choisi et non pas rejeté, ne crains pas, je suis avec toi. N'aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu, je te rends robuste, oui, je t'aide, je te soutiens par ma droite qui fait justice. » Alors, c'est Dieu qui dit à son peuple qu'il ne l'a pas rejeté, qu'il va le ramener chez lui grâce à Cyrus. C'est ce qu'il nous est raconté un peu plus loin. Et les deux textes sont absolument identiques à un ou deux détails près. Un peu plus loin dans le texte, chapitre 43, je vous ai mis ici une portion du texte qui présente quelques variantes. Alors, pour ceux et celles qui peuvent lire l'hébreu, en fait, j'ai souligné aussi en français, il y a par exemple ici le verbe « dire ». Amar ou Omer, si vous voulez, 10 ans. Alors, ne crains pas que je suis avec toi. Depuis le levant, je te fais revenir ta descendance. Depuis le couchant, je te rassemblerai. Au nord, je dirai. Alors, en hébreu, disons, dans le texte reçu, le texte officiel, on a simplement 3 consonnes, ces 3-là. Si vous regardez le texte ici, vous en avez 4. C'est tout simplement que la 2e consonne, qui est un vav, sert à indiquer la voyelle longue O. Par la suite, dans le système des rabbins, on mettra tout simplement un point au-dessus de la première lettre, ou alors on écrira encore cette lettre, cette espèce de petite barre, là, le vav, avec un point au-dessus. Alors ça, c'est une variante purement orthographique, si vous voulez. Il y a d'autres variantes intéressantes. Un peu plus loin dans le texte ici, Dieu dit « Au nord, je dirai, donne, et au midi, ne retiens pas, fais revenir mes fils ou tes fils du pays lointain, mes fils, tes filles, mes filles ou tes filles de l'extrémité de la terre. » Dans le texte d'Isaïe, Dieu s'adresse, dans le texte tel qu'on lit aujourd'hui, Dieu s'adresse au nord et au midi, c'est-à-dire aux autorités de ces régions, si vous voulez. Donne et au midi, ne retiens pas, c'est-à-dire libère mon peuple, laisse aller mon peuple. Et le texte continue, ne retiens pas, fais revenir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Dieu continue de parler au nord et au midi. Dans le texte de Qumran, il faut fermer les guillemets après « ne retiens pas ici ». Et là, Dieu s'adresse à son peuple. « Fais revenir tes fils du pays lointain et tes filles de l'extrémité de la terre. » Alors, c'est tout simplement une façon différente de lire le texte, et on ne s'adresse plus aux autorités du Nord et du Midi, mais au peuple même d'Israël en disant « Fais revenir tes fils et tes filles. » Alors, c'est ce genre de variantes qui sont somme toute des variantes minimes, mais qui nous éclairent un peu sur la façon dont ce groupe-là, dans ce manuscrit, comprenait un texte parfois un peu ambigu du livre d'Isaïe. Nous avançons donc, pour conclure sur ce manuscrit, je vais aller assez rondement. C'est un important témoin de la transmission du texte d'Isaïe dans sa forme proto-massorétique, c'est-à-dire la forme qu'il avait avant la fixation définitive du texte tel que nous l'avons aujourd'hui. On a 20 d'autres manuscrits à Qumran qui présentent de légères variantes, mais qui en général sont un reflet d'une transmission assez fidèle du texte. On en a un autre dans une grotte de la mer morte à Mourabaat qui est un peu plus récent que ceux de Qumran et qui montre déjà la forme définitive que le texte va prendre. Il y a quelques commentaires d'Isaïe aussi et plusieurs citations de ce livre-là à Qumran qui montrent un peu l'importance du livre. Alors, ça m'amène dans la règle de la communauté, 2e manuscrit qu'on a ici au musée. Vous avez les jarres dans lesquelles, la grande jarre est celle dans laquelle le manuscrit a été trouvé. Le patriarche Samuel qui s'est porté acquéreur de ce manuscrit et qui a cherché ensuite à le revendre lorsqu'il a vu que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour sa bibliothèque. Il a essayé d'en obtenir quelques sous pour ses œuvres de charité. Ne trouvant pas à le vendre, il a fini par mettre une annonce dans le Wall Street Journal en 1955. « Biblical manuscripts dating back to at least 200 BC are for sale. » Alors, vous pouvez acheter des manuscrits, puis on dit que ça ferait un excellent cadeau pour une institution éducative ou religieuse de la part d'un bienfaiteur fortuné, si vous voulez. Et à ce moment-là, Igaël Yadin, le fils de Soukenik, et qui était aux États-Unis, a eu connaissance de cette annonce. Il a obtenu des fonds du Musée d'Israël. Il s'est porté acquéreur par personne interposée. Entre-temps, le manuscrit avait été amené à l'École archéologique américaine, donc le American School of Oriental Research à Jérusalem, et photographié par 2 Américains. Et les photos que nous avons aujourd'hui, la première série de photos, et cette série de photos, celle-ci est une série un peu plus récente. Vous avez ici le manuscrit au complet. Alors, il y a 11 colonnes, la première page que vous avez vue déjà au début de la conférence, et les 10 autres colonnes jusqu'à la fin. On a la fin de ce texte-là, mais il y avait ensuite sur le même rouleau 2 autres textes un peu plus courts. Ce que contient ce rouleau, c'est l'enseignement et la règle de vie d'une communauté de gens qui veulent revenir à la loi de Moïse de tout leur cœur et de tout leur être. Autrement dit, des gens qui veulent se convertir, oui, mais se convertir à leur propre religion en la pratiquant d'une façon plus rigoureuse. Et je cite, « D'après ce qui en a été révélé au fils de Sadoc, les prêtres qui gardent l'Alliance et cherchent ce qui lui plaît, ce qui plaît à Dieu. » Alors, ils vont se fier à l'enseignement d'un groupe de prêtres qui a une interprétation particulière de cette loi de Moïse et ils vont se regrouper pour essayer de la vivre d'une façon très intégrale, si on peut dire. Le plan de ce rouleau est assez simple. Il y a d'abord une description des buts et des idéaux de la communauté et des éléments d'une cérémonie d'entrée dans la communauté qu'on appelle l'entrée dans l'Alliance. Ils vivent à leur façon l'Alliance d'Israël. Il y a ensuite une longue instruction sur les deux esprits, donc qui développe tout ce système d'opposition entre les fils de lumière, les fils de ténèbres, entre nous et tout le monde extérieur. Une collection de règles pour l'organisation de la vie de la communauté, un programme pour une nouvelle communauté qui était un vestige d'une forme ancienne de ce document et qui se termine par un hymne de louange. Alors, ce que nous avons au musée, ce sont les sept premières colonnes. Je les ai placées sur deux rangées, mais en fait, au musée, vous pouvez les voir bout à bout. On voit assez bien la page de garde. On voit quelques coutures aussi entre les colonnes, à quelques endroits. Ici, la dernière, puis il y en a ici aussi. Hein. On voit aussi, si vous avez un bon œil, les marges sont relativement faciles à voir, la division en paragraphes. Et vous remarquerez aussi, à l'occasion, je le vois un peu difficilement, mais il y a quelques petits crochets dans les marges pour indiquer des subdivisions à l'intérieur des grandes unités. Alors, ce sont des signaux de scribe que les premiers traducteurs ont à peu près ignorés, mais personnellement, je suis convaincu qu'il faut d'abord essayer de comprendre comment les scribes divisaient leurs textes avant de proposer notre propre plan. Ensuite, on remarque aussi qu'il y a des corrections et des additions. Donc, c'est un texte qui a été revu, annoté, corrigé à l'occasion et qui a une existence, qui a une vie. Parce que, ce qui est assez fascinant aussi, là, imaginez-vous que nous sommes en présence d'un texte qui a été copié il y a 2000 ans et plus, 2100 ans à peu près, par un jeune homme probablement ou un scribe un peu aguerri dans la trentaine. Quelqu'un qui était complètement dévoué et persuadé d'être dans la bonne voie dans sa communauté de salut. Alors, c'est un peu cette épaisseur humaine qu'on touche aussi dans ces manuscrits. Alors, je vous montre ici la fin de la première colonne, le rite du passage dans l'Alliance. Il commence ici, vous voyez, il y a un alinéa, comme on ferait aujourd'hui sur nos ordinateurs. Bon. Et on dit, les prêtres vont raconter comment la justice de Dieu s'est manifestée par ses œuvres puissantes. Donc, comment Dieu a pris les devants envers nous. Il proclama toutes les grâces de sa miséricorde en faveur d'Israël, et les Lévites, donc qui sont la contrepartie des prêtres, raconteront tous les péchés des fils d'Israël. Alors, d'une part, toutes les bonnes actions de Dieu, d'autre part, tous les manquements d'Israël qui n'a pas répondu à ces actions de justice de Dieu. Et on dit toutes les transgressions coupables, les fautes commises pendant la domination de Bélial. Bélial, le nom, veut dire le vaurien. Et c'est le chef des démons. Ça va devenir le Satan dans la tradition biblique à partir du livre de Job, entre autres, là. Mais c'est le chef des forces du mal, si vous voulez. Alors, vous affrontez aux forces du mal, mais ça ne vaut rien. Hein. Et tous ceux qui passent dans l'Alliance, donc ceux qui s'agrègent à la communauté et ceux qui renouvellent leurs promesses probablement chaque année, vont confesser après eux, donc après les prêtres et les lévites, en disant « Nous avons péché, nous avons commis des transgressions et des fautes, nous avons été méchants, nous et nos pères avant nous. » Par conséquent, on veut revenir à la loi de Moïse de façon intégrale, si vous voulez. Alors, c'est un peu le sens de cette communauté. Je vous montre un extrait de l'instruction sur les deux esprits. Vous allez reconnaître des passages du récit de la création dans la Genèse, quand on dit que Dieu a créé l'homme, mâle et femelle, et qu'il leur a donné la terre à dominer. Alors, c'est ce que nous avons ici, à la ligne 17 à peu près du texte. Il a créé l'humanité pour qu'elle domine le monde, mais là, le texte fait un ajout qui n'est pas dans la Bible. Il lui a mis deux esprits en qui elle marche jusqu'au moment de sa visite. Tels sont les esprits, la vérité et la perversion. D'une source de lumière émane la nature de la vérité, d'une source de ténèbres émane la nature de la perversion. Et vous voyez arriver d'un côté le prince des lumières, donc l'ange chef des forces du bien, des forces de lumière, dans la main du prince des lumières, qui est peut-être l'archange Michel, soit dit entre nous, est la domination de tous les fils de justice. C'est dans les voies de lumière qu'il marche, mais dans la main de l'ange des ténèbres, ça c'est notre Bélial de tout à l'heure probablement, et toute la domination des fils de perversion, c'est dans les voies des ténèbres qu'il marche. Alors choisissez votre camp. Hein? On va dire un peu plus loin dans le texte que ces forces de lumière et de ténèbres se battent non seulement dans le cosmos, mais qu'elles se battent en vous également, et que vous avez constamment à lutter contre les forces de ténèbres en vous, qui cherchent à vous attirer du côté du gouffre dans lequel vous allez périr avec le grand vaurien. Ensuite, je vous ai mis quelques extraits de la colonne 6. Quand je vous disais tout à l'heure, on a des comparaisons, on peut comparer le mode de vie de cette communauté avec ce que Flavius Joseph décrit des Esséniens. Alors, c'est à partir de passages comme celui-ci. Ça nous donne un petit aperçu de la vie communautaire à Qumran. C'est ensemble qu'ils mangeront, ensemble qu'ils béniront, ensemble qu'ils tiendront conseil. En tout lieu où il se trouvera 10 hommes, la communauté juive fait ça encore aujourd'hui, il faut 10 hommes pour la prière. 10 membres du conseil de la communauté, qu'il ne manque pas un parmi eux qui soit un prêtre. Donc, il faut qu'il y ait un prêtre pour 10 membres de la communauté ou parmi 10 membres de la communauté. Chacun s'assoira devant lui, donc c'est le prêtre qui préside, selon son rang, et ainsi ils se consulteront sur toute chose. Quand la table aura été préparée pour manger ou le vin pour boire, donc le pain et le vin, si vous voulez, qu'on va retrouver, qui est déjà dans le rituel juif et qu'on va retrouver dans le rituel chrétien, le prêtre étendra la main en premier pour procéder à la bénédiction sur les prémices du pain et du vin. Là, j'ai mis en accolade et en jaune ce qu'on appellerait un doublet. Le scribe a sauté du mot « vin » qui est répété ici. Il était déjà là. Alors, l'œil du scribe est revenu au premier mot « vin » et il a retranscrit toute cette séquence une deuxième fois. C'est assez amusant et ça n'a pas été corrigé par le réviseur d'épreuves. Le scribe senior qui a vu ça dormait dans ce bout-là, probablement. Alors, le texte est resté avec cette faute. Et on dit qu'il ne manque pas en tout lieu où il s'en trouvera 10, un homme qui scrute la Torah nuit et jour, constamment, se relayant l'un l'autre. Et les rabbins, ils s'appellent comme ça, les nombreux, si vous voulez, l'assemblée, ils veilleront ensemble un tiers de chaque nuit de l'année pour lire le livre, sans doute la Torah, pour chercher le droit et pour bénir ensemble. On a un bel aperçu là de ce que pouvait être un peu l'idéal de vie communautaire. Ce texte-là est l'un des plus importants témoins de la vie de la communauté de Qumran et de ses enseignements et pratiques. Il recoupe les enseignements de Flavius Joseph, les descriptions des Esséniens. Pourquoi on pense que c'est probablement d'un groupe d'Esséniens qu'il s'agit. On a 10 autres copies de ce texte, mais celle-ci est la plus complète. Les autres copies sont intéressantes parce qu'elles nous montrent qu'il y a eu une évolution dans la rédaction du texte. Il y a eu des mises à jour, des éditions révisées et corrigées, si vous voulez. Les anciennes éditions étaient conservées pour référence, disons, pour mémoire, si vous voulez. Bien, ensuite, je vous ai dit aussi qu'il était suivi de 2 autres documents qui sont aussi des règles, mais qui ont de particulier d'être des règles pour les temps de la fin. Alors, ça nous amène à cette fameuse guerre des temps de la fin. Nous allons terminer avec ça, parce qu'il faut garder ça pour la fin, évidemment, c'est là que ça va. Alors, le rouleau de la guerre, vous l'avez ici, avant son déroulement, avec quelques fragments épars. La jarre dans laquelle il a été trouvé, à côté d'une jarre de la période 2 de Qumran. Vous voyez que c'est identique, ça vient de la même manufacture. Et le barbu au béret et à lunettes ici est le père Devaux, le responsable de la fouille. C'est une photo inédite qui m'a été prêtée par l'École biblique de Jérusalem. Si j'avais mis la photo au complet, on verrait que Devaux est en discussion avec Igaël Yadin, donc le fils de Soukenik, qui a acheté ces rouleaux. Et Yadin est celui qui a fait ce qui reste à ce jour un des meilleurs commentaires de la règle de la guerre. Alors, c'est ce que je vous ai raconté un peu dans les lignes du bas. Et là aussi, on a récupéré quelques fragments dans la grotte 1 qui démontrent bien que le manuscrit provient de cette grotte. Vous avez le manuscrit au complet ici. sauf une colonne qui manque ici, qui est détachée, et quelques fragments, mais on a le début avec sa page de garde et 18 colonnes qui sont montrées ici. Il y en avait une 19e et probablement une 20e, parce qu'après un petit, une marge à gauche de la 19e colonne, du fragment qu'on a, on a encore deux lettres qui devaient appartenir à la colonne 20. Hein? Et on suppose qu'il y avait 20, 21 colonnes probablement. On a le haut de ce manuscrit, mais pas le bas. Et vous voyez comment il est divisé. J'ai mis le plan ici. C'est un manuscrit contemporain du manuscrit d'Isaïe. Il comporte d'abord une introduction qui s'inspire un peu du livre de Daniel pour raconter la guerre de la fin des temps. Comment ça va arriver, comment ça va se passer. Ensuite, une série d'instructions sur la manière de s'y préparer, des tactiques, si vous voulez. Ensuite, un recueil de prières pour le temps de la guerre, puis finalement, le récit des combats. Mais dans le récit des combats, ce sur quoi on met l'accent, c'est moins le détail des engagements que les discours d'exhortation que les prêtres vont faire aux troupes au fur et à mesure qu'ils les lancent dans la bataille. Alors, on voit bien que ce texte-là est plutôt le manuel de l'aumônier que celui du général. C'est vraiment un manuel des prêtres qui s'occupe de ce que les règles religieuses soient respectées, que les prières soient dites au bon moment et que le prêtre puisse faire le bon discours au moment d'envoyer ses troupes au front. Nous avons ici au musée les colonnes 11 à 14. Alors, c'est ce que nous avons ici. Il y a là-dedans essentiellement les prières de la guerre qui se divisent en trois parties. Des prières à réciter au camp, entre nous, la veille du combat pour s'y préparer. On appellerait ça la veillée d'armes probablement dans notre langage ici. Ensuite, les prières à réciter sur le champ de bataille. Alors, un de ces rituels, je vous montrerai tout à l'heure, consiste à maudire les gens d'en face puis à attirer la bénédiction sur nous. Et puis, des prières après la victoire qui est inévitable, puisque c'est Dieu qui combat pour nous. Et la colonne 15, en fait, le texte commence probablement au bas de la colonne 14, raconte les différents engagements avec, comme je vous disais, les discours des prêtres. Alors, je vous ai mis trois textes que je parcours brièvement dans le peu de temps qui nous reste. Ça, c'est intéressant, cette colonne 11, c'est la première qu'on voit ici au musée. C'est un texte qui se réfère à l'exemple de la lutte entre David et Goliath. Vous avez la dernière, une des dernières mosaïques que vous voyez dans l'exposition au musée, c'est David avec les armes de Goliath autour de lui, là, dans une mosaïque du 5e, 6e siècle. Alors, dans la prière qu'on va réciter au camp la veille du combat, on va rappeler à Dieu comment il a donné la victoire à David, parce que David venait combattre Goliath avec le nom de Dieu et non pas avec une épée ou une lance. Alors, il avait avec lui l'arme la plus puissante. Le texte va comme ceci, Goliath de Gath. Alors, vous, ceux qui lisent l'hébreu, vous avez le nom de Goliath ici. Pas? Goliath le Gathite, un homme puissant, un guerrier puissant. « Tu l'as livré aux mains de David, ton serviteur, parce qu'il a mis sa confiance en ton grand nom plutôt que dans une épée et une lance, car c'est à toi la guerre. » C'est toi qui décides de l'issue de la guerre, c'est toi qui donnes la force aux combattants. Parce que si Dieu ne combat pas avec nous, on est foutus. Rappelez-vous les épisodes autour de l'Arche d'Alliance dans le livre de Josué, par exemple. Ensuite, ici, vous avez un hymne à réciter sur le champ de bataille au jour du combat, où on se présente comme le véritable peuple de Dieu qui combat pour lui, assisté des forces du ciel. Alors, j'attire votre attention en particulier sur les lignes 10, 11, 12, où on retrouve encore la figure du prince de lumière. Le prince de lumière, depuis longtemps, tu l'as désigné pour nous aider. Et, bon, il manque un petit mot dans le texte. « Et tous les esprits de vérité, donc tous les anges de vérité, vont combattre avec lui. Hein. Et toi, tu as fait le vaurien Bélial pour corrompre un ange hostile. Dans les ténèbres, probablement, est sa domination. Et son conseil vise à faire commettre le mal et à nous rendre coupables. Et tous les esprits de son lot des anges de destruction se conduisent selon les décrets des ténèbres. C'est vers eux que tend leur seul désir. » Et nous, dans le lot, nous sommes le parti, le groupe, le clan de ta vérité. Réjouissons-nous dans la main de ta puissance, exultons dans ta délivrance, jubilons dans ton aide et dans ta paix. C'est Dieu qui va combattre pour nous par fidélité à nos pères, dont nous sommes les continuateurs. Vous voyez un peu le style. Et finalement, quelques lignes du début du dernier engagement, de dernière partie qui raconte les engagements. Alors, on s'inspire un peu du livre de Daniel, avec quelques expressions reprises presque mot à mot. « Ce sera un temps de tribulation pour Israël et de déclaration de guerre contre les nations. Et le lot de Dieu sera en rédemption ou pour une rédemption éternelle, mais ce sera la destruction pour toutes les nations impies. Et tous les hommes prêts pour la bataille partiront et camperont contre le roi des Kittim. Les Kittim, c'est un terme dans la Bible hébraïque qui désignait d'abord des populations venues probablement de la région de Chypre. Hein, et c'est devenu un nom de code pour désigner les Grecs qui dominent le territoire d'Israël-Palestine, si vous voulez, pendant à peu près 2 siècles et demi, 3 siècles. Et ensuite, quand les Romains vont prendre le pouvoir dans la région, en 63 avant notre ère, le nom va être transféré aux Romains. Alors, dans ce document-là, les Kittim, c'est les gens d'en face. Ce sont les ennemis dont le nom s'est étendu, le sens du mot Kittim s'est généralisé, et contre toute l'armée de Bélial, toujours le même vaurien, assemblé avec lui pour le jour de vengeance par l'épée de Dieu. C'est l'épée de Dieu qui combat, c'est pas la nôtre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce document? En résumé, une vision dualiste de la guerre finale qui est inspirée des écrits bibliques, qui utilise aussi du matériel gréco-romain. Toutes les stratégies tactiques s'inspirent de manuels qui sont en usage dans le monde gréco-romain. C'est adapté à un point de vue de prêtre et c'est un document qui est probablement pré-sectaire, mais que la secte ou le groupe de Qumran a adapté à ses besoins. On en a aussi plusieurs exemplaires et quelques écrits apparentés et on pense que ce document a pu légitimer la séparation du groupe en construisant ses ennemis, ses frontières, si vous voulez, soutenir son espérance et peut-être même sa mobilisation contre les Romains dans la grande révolte des années 66 à 70. Alors, je termine avec un petit logo publicitaire aussi pour un livre que j'ai traduit sur le judaïsme ancien dans les manuscrits de la Mer Morte. Les écrits de Qumran sont une fenêtre sur le judaïsme ancien. C'est ce qu'on retient principalement de ces textes-là. Ils nous renseignent sur l'état de la transmission du texte biblique avant la chute de Jérusalem. Pourquoi c'est important ça? Parce qu'après la chute de Jérusalem, les rabbins vont standardiser le texte biblique. Et on a une vue sur ce qu'était le texte avec une certaine diversité, mais aussi des témoins du texte tel qu'il va être standardisé dans la période qui précède. On a un aperçu aussi sur quelques courants d'idées répandus dans divers groupes apparentés aux gens de Qumran, parce que tous les textes ne sont pas sectaires. Alors, on a des textes qui étaient partagés par plusieurs groupes dans le judaïsme de l'époque. On a aussi un aperçu de l'intérieur. Vous êtes invité, au fond, à fréquenter la bibliothèque d'un groupe marginal qui s'est séparé pour vivre une réforme religieuse. Et c'est assez inédit, assez exceptionnel qu'on puisse avoir une telle bibliothèque. Ces manuscrits éclairent la transition d'une période obscure du judaïsme ancien, qui est la transition entre la fin de la formation, de la constitution des écrits de la Bible proprement dite, les derniers écrits, c'est le livre de Daniel, rédigé dans les années 150, plus ou moins, il se réfère à des événements des années 160, puis il est écrit pratiquement tout de suite après, hein, et le judaïsme rabbinique, celui qui va se mettre en place après la destruction de Jérusalem. Et finalement, d'un point de vue chrétien, ces textes-là éclairent le contexte juif dans lequel le mouvement de Jésus, le mouvement chrétien, va prendre naissance. On a, par exemple, à Qumran, des fragments d'à peu près 30 textes, 34, 36 plus ou moins, textes qui parlent des attentes messianiques du groupe, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure. On n'attend pas un seul messie, mais deux, un prêtre et un roi, qui vont restaurer les institutions d'autrefois. Alors, ces manuscrits sont vraiment pour les chercheurs du domaine biblique, des origines chrétiennes, du judaïsme ancien. C'est une mine d'or absolument fabuleuse. Et comme on l'a dit en ouverture, le corpus est maintenant publié au complet, mais on n'a pas fini de le comprendre et de l'explorer. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite, si vous avez l'occasion, de revoir encore ces manuscrits à nouveau ici ou dans d'autres circonstances. Merci bien.